Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et très très ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir on parlera de la discrimination à l'embauche liée à la religion. Selon une grande enquête, une étude réalisée par l'Institut Montaigne, lorsqu'on s'appelle Mohamed, on a 4 fois moins de chances d'être recruté que Michel ou François. Pourquoi les Français de confession musulmane sont-ils discriminés à l'embauche ? Tentative d'explication avec justement la chercheuse qui a réalisé cette étude pour l'Institut Montaigne, Marie-Anne Valfort, qui nous fait le plaisir d'être en direct avec nous sur ce plateau. Merci d'être venue, Marie-Anne Valfort.
Merci pour l'invitation. Bonjour.
Alors, sur ce plateau également, Samira Ben-Jalti, qui est donc chef de projet au collectif de l'islamophobie en France, le CCIF, qu'on connaît aussi. Bonsoir Samira.
Bonsoir Nadia.
Et un revenant, Jamel El-Hamri, qui est chercheur en islamologie ou en islam contemporain à l'université de Strasbourg. Bonsoir Jamel.
Bonsoir Nadia.
Nous ferons le point tout à l'heure vers 17h avec Abdel Azekri, président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie. Vous le savez, Marine Le Pen est jugée aujourd'hui en correctionnel pour avoir comparé les prières de rue à l'occupation nazie. Très rapidement, pour vous présenter, bien sûr, Marie-Anne Valfort, vous êtes chercheuse, mais aussi maître de conférence à la Sorbonne. Alors, sur le marché du travail, il vaut mieux paraître catholique que musulman ou juif. C'est ce que nous révèle en tout cas l'étude que vous avez réalisée à l'Institut Montaigne. Pourquoi donc Mohamed a 4 fois moins de chances d'être recruté que Michel ? Dites-nous tout.
Alors, d'abord, peut-être un petit retour sur la méthode qui nous a permis de faire émerger ces résultats. Avec l'Institut Montaigne, nous avons voulu savoir si, dans le cadre d'une recherche d'emploi, une personne pouvait être discriminée parce qu'elle est perçue comme juive ou musulmane, et uniquement pour cette raison. Donc, nous nous sommes lancés dans ce qu'on appelle un testing sur CV. On a envoyé, on a répondu à 6200 offres d'emploi sur l'ensemble du territoire français. Nos candidats sont des personnes qui sont françaises, issues du même pays d'origine, le Liban. Leur parcours scolaire, leur parcours professionnel sont identiques en tout point, à l'exception de leur religion supposée. Et cette religion, elle est révélée par 3 indications, leur prénom. On a Dove et Esther pour les juifs, Mohamed et Samira pour les musulmans et Nathalie et Michel pour les catholiques. Deuxième indication, leur langue maternelle ou alors le collège confessionnel qu'elles ont fréquenté au Liban. Et troisième indicateur, leur implication dans une association de scoutisme confessionnel.
Du coup, est-ce que vous avez utilisé des statistiques ethniques ? On croit savoir que c'est quand même interdit dans ce pays, non ?
Non, pas du tout. On a simplement utilisé des marqueurs qui pouvaient laisser
supposer... Ce que vous appelez marqueurs, c'est aussi une variable qui nous révèle l'obédience religieuse, nous sommes d'accord.
Oui, en tout cas, on laisse le recruteur l'interpréter comme l'appartenance à une affiliation religieuse particulière, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et donc nous avons comparé les taux de réponse entre ces candidats fictifs, et ce qui apparaît, comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a une forte discrimination à raison de la religion à l'égard donc des juifs, mais plus précisément mais surtout des musulmans, et ce sont les hommes musulmans qui souffrent le plus de cette discrimination. Lorsque Michel doit envoyer 5 candidatures pour décrocher un entretien d'embauche, Mohamed, lui, doit en envoyer 20, soit 4 fois plus.
Alors justement, on va revenir sur la méthode, ce que vous appelez la méthode, l'échantillonnage. Est-ce qu'il est représentatif ou pas ? Donc, on vous posera toutes ces questions. Mais peut-être une réaction sur le plateau, sur cette étude qui nous révèle, j'ai envie de dire, Jamel Hamri ou Samira Ben-Jalti, une réalité.
Je profite de la présence de Mme Valfort pour saluer cette étude. Je pense qu'elle est salutaire parce que pour une fois, on mesure, donc à partir du moment où on mesure, on est en mesure du coup d'entreprendre, ou en tout cas d'entrevoir des politiques concrètes, en tout cas on l'espère.
Ouais.
Néanmoins, on n'a pas attendu cette étude pour connaître. Ça faisait déjà longtemps, qu'on en parle.
Mais ça relevait plutôt du fantasme. On a toujours dit que c'était...
C'était déjà une réalité.
Oui.
Une réalité vécue, une réalité partagée, une espèce de communauté de destin qui devait forcément passer par les discriminations et trouver ça finalement comme une chose finalement extrêmement banale. Donc finalement, cette étude, elle confirme nos expériences douloureuses en tant que citoyen français de confession musulmane.
Oui.
Toutes ces souffrances psychologiques que ça engendre et des déséquilibres sociaux, voire affectifs, que l'on voit entre citoyens français de confession musulmane, d'un côté les hommes et d'un côté les femmes, avec toutes ces conséquences et toutes ces souffrances extrêmement dramatiques.
Mais dramatiques justement sur la cohésion nationale surtout.
Mais quand on a une étude comme celle-ci et que enfin on est capable finalement de dire que c'est une réalité scientifiquement, c'est une réalité.
On peut s'appuyer sur cette étude.
Voilà. Là, on peut se rendre compte qu'effectivement, ça devient un enjeu pour notre République.
C'est un enjeu pour notre République, effectivement. Vous avez relayé cette étude au CCIF, Samira Banjalti.
Oui, tout à fait. Donc, je voulais moi aussi remercier Marianne de cette étude parce que, justement, elle a le mérite d'exister. Je ne crois pas me remémorer une quelconque étude de ce type dans les années passées. Et effectivement, quand
on
est...
On dit que c'est courageux de la part de l'Institut Montaigne et de la chercheuse.
Ah oui, c'est très courageux d'avoir pris ce sujet à bras-le-corps, d'être allé au fond, d'avoir fait tous ces testings et aujourd'hui d'arriver avec des preuves comme le CGML, des preuves scientifiques comme quoi la discrimination est avérée. Au CCF, on reçoit beaucoup de signalements de discrimination à l'embauche, mais aussi une fois salarié parce qu'on est musulman. Et effectivement,
même
quand on est
recruté,
même une fois recruté, exactement. Oui. Et en tant que maghrébine, française, maghrébine aussi, on a aussi autour de nous, on a toujours des cas de discrimination autour de nous quand on n'en a pas été soi-même victime. Donc c'est vous dire à quel point cette étude, elle est très importante, mais j'espère aussi qu'il y aura ensuite, comme vous disiez, que ça touche aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Il faut que là, il y ait effectivement une résonance par rapport aux valeurs de la République. Il faut qu'il y ait que les pouvoirs politiques puissent prendre conscience et puissent faire quelque chose. Parce que là, on a des jeunes qui sont diplômés de grandes écoles pour la plupart et qui ne trouvent pas de travail. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal? C'est la question d'ailleurs à laquelle
Très souvent, quand il s'agit des Français de confession musulmane qui sont héritiers de la colonisation, de l'immigration du Maghreb, il y a un préjugé qui est très tenace, c'est de dire qu'à chaque fois nous faisons preuve d'affectivité. Et là, pour le coup, nous avons une étude scientifique basée sur la raison. Et là, on va pouvoir travailler sérieusement, rationnellement.
Alors, rationnellement, justement, dans cette étude, on va essayer de décortiquer encore davantage. Un candidat musulman pratiquant, voilà, a deux fois moins de chances d'être convoqué à un entretien qu'un catholique pratiquant. C'est 10,4 contre 20,8. C'est deux fois moins de chances. Alors, quand vous dites pratiquant, qu'est-ce que vous avez utilisé comme variable, justement? Parce que bon, quand on envoie un CV, on n'est pas pratiquant, on n'est pas pratiquant, quoi.
Alors, comme je l'ai précisé dans l'introduction, on a trois marqueurs d'appartenance religieuse. Les deux premiers, donc, ont trait au prénom et au collège confessionnel qui a été fréquenté au Liban. Donc là, ça relève plus de la tradition religieuse du candidat, celle qu'il a héritée de ses parents. L'implication, la pratique religieuse, elle, est signalée par l'investissement du candidat dans une association de scoutisme confessionnel. Mmh. Donc on a Scout et Guide de France, l'association catholique de scoutisme Scout et Guide de France pour Michel et Nathalie, les candidats catholiques, et l'association de scoutisme musulmane Scout musulman de France pour Samira et Mohamed.
Alors, pour vous, ces deux facteurs suffisants, j'ai envie de dire, pour dire qu'il s'agit d'un candidat musulman pratiquant?
Oui, probablement. En tout cas, on peut supposer cela.
Évident de vérifier si le musulman est pratique ou pas, si on n'a pas l'observation directe, j'ai envie de dire.
En tout cas, il est investi dans une association de scoutisme confessionnel. Donc ça signale quand même une certaine activité au niveau de la pratique religieuse.
Quelles sont les réserves que vous émettez justement par rapport au choix de ces variables, madame Anne?
Pas vraiment de réserve. Ce qui compte, c'est que les signaux qu'on envoie soient perçus comme traduisant une affiliation supposée à la religion musulmane ou catholique, et sur cette base, de regarder si ces différences d'affiliation religieuse influencent la décision de recrutement de l'employeur.
Donc, c'est clair que cette étude vient corroborer, je le disais, une hypothèse, mais aussi une réalité, et les chiffres sont très éloquents. Vous dites que, justement, puisque vous êtes intéressé également aux catholiques et aux juifs, vous dites que ces discriminations frappent également les juifs pratiquants de manière moins significative.
Oui, de manière moins significative, mais malgré tout, il y a une discrimination à l'embauche à l'égard des Juifs, et c'est une discrimination qui n'a pas été suspectée jusque-là. C'est-à-dire qu'aucun testing sur CV, ni en France, ni à l'étranger, n'a testé cette réalité. Et puis, on a un peu cette idée reçue que l'antisémitisme s'en cantonnerait à des actes antisémites, oui. Certes potentiellement extrêmement violents, mais isolés. L'idée que l'antisémitisme puisse se traduire par des comportements moins ouvertement hostiles, mais plus systématiques et susceptibles d'affecter le quotidien d'un plus grand nombre de Juifs, était écartée, y compris par des personnes fortement impliquées dans la lutte contre l'antisémitisme. Je pense par exemple à la Michèle Viviorca, oui. qui l'année dernière, en 2014, a sorti un bouquin qui s'intitule « L'antisémitisme expliqué aux jeunes ». Et à un moment donné, dans son exposé, il dit « Ce n'est pas parce qu'on est juif qu'il sera plus difficile qu'à d'autres d'accéder à un emploi ». Eh bien, nous battons en brèche cette idée reçue. Il y a une discrimination à l'embauche également à l'égard des Juifs, mais de moindre ampleur hein, lorsqu'on la compare à la discrimination dont souffrent les musulmans de notre pays.
Alors Mohamed, 4 fois moins de chances d'être recruté que Michel. Vous voulez réagir par rapport à ça, Samira?
Oui, je voulais rebondir sur ce que vous disiez il y a quelques secondes en interpellant Marianne sur le fait que comment on peut savoir que ce sont des personnes musulmanes si on ne les a pas de visu.
Nous, non, on a pratiquantes surtout.
Pratiquantes, exactement. Pratiquant. Donc nous, au CCF, on reçoit beaucoup de signalements, beaucoup de personnes qui nous contactent, qui n'ont pas de nom musulman, qui n'ont pas de prénom musulman, puisque ce sont des convertis, oui. et qui, une fois arrivés à l'entretien d'embauche, et la plupart du temps, ce sont des hommes, là, ils arrivent et on voit une barbe. Et donc là, on a un entretien d'embauche qui est tourné, orienté vers la religion, vers la pratique de la religion. Et donc là, si vous voulez, là, c'est vraiment discriminatoire. Ça va au-delà de ce qu'a pu dire Marianne dans son étude. C'est-à-dire que là, on est vraiment confronté à l'islam et pas tant en tant que renvoyé à son prénom ou à ses origines qu'on aurait pu supputer. Mais là, c'est frontal.
Est-ce que Marie-Anne Valfort a intégré ça dans son étude, les convertis? Non.
Non, pas du tout.
Voilà.
Pas du tout, mais ça pouvait être l'objet aussi d'une recherche future, bien
une
sûr.
Une autre étude, justement, qui pourrait effectivement intégrer les convertis qui sont de plus en plus nombreux, qui sont victimes également de discrimination. Vous voulez réagir, Jamal Hamri?
Moi, je suggère une autre étude. Peut-être que l'Institut Montaigne se portera volontaire.
Vous allez sortir avec plein de propositions
voilà.
à cette émission.
Et je pense que cette étude, elle met surtout en avant une chose, elle met en avant un mal français, une sorte de communautarisme culturellement raciste et socialement élitiste. Et j'aimerais paraphraser, je me ferai l'élève de Pierre Bourdieu qui avait déjà analysé qu'en étant fils d'ouvrier, on avait déjà des difficultés finalement à prendre cet ascenseur social, finalement être dans l'idéal républicain. Finalement, nous, notre génération, nous voyons qu'il y a cette dimension également culturelle qui s'ajoute à cette dimension sociale. On fait la jonction et du social et du culturel, et on se rend compte qu'il y a une espèce de communautarisme indolore, incolore, qui pointe du doigt tous les autres types de communautarisme et qui fait extrêmement du mal au pacte social et au pacte national.
On va y revenir après la pause publicitaire, mais cette question, bien sûr, pourquoi une telle discrimination à l'égard des musulmans et pourquoi Mohamed a 4 fois moins de chances d'être recruté que François? Est-ce que l'islam souffre justement d'une image dégradée en France? La réponse avec notre chercheuse qui est avec nous en direct de nos studios, Anne-Marie Valfort de l'Institut Montaigne, et nos invités plateau, Samira Benjarté du CCF et Jamal Hamri, universitaire. A tout de suite, restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Avec nous sur le plateau du chercheuse de l'Institut Montaigne, Madame Marie-Anne Valfort, qui vient de réaliser effectivement une étude assez intéressante que vous êtes en train de découvrir avec nous sur la discrimination à l'embauche. Mohamed a 4 fois moins de chances d'être recruté que Michel. Avec nous pour nous accompagner dans cette émission, Samira Benjalti du CCIF et Jamal Al-Hamri, qui est donc chercheur en islam contemporain à l'université de Strasbourg. Alors on avait effectivement avant la pause publicitaire posé cette question. Mais on a envie de se demander pourquoi est-ce que les musulmans sont discriminés à l'embauche? Est-ce que c'est lié directement à la religion, qui est la deuxième religion de ce pays, justement? Est-ce que l'islam souffre d'une image dégradée? Marianne
Vincent. Sans aucun doute. Trois quarts des Français ont une mauvaise image de l'islam en France. Et d'après un sondage Harris Interactive de 2013, lorsqu'on demande aux Français de préciser les mots ou expressions qui leur viennent spontanément à l'esprit quand ils réfléchissent à la religion musulmane, on a deux familles de stéréotypes qui émergent et elles sont bien entendu toutes négatives. La première associe cette religion à l'extrémisme religieux. Alors. Et la deuxième associe cette religion à l'oppression des femmes. Mmh. Et donc, on a voulu savoir si ces deux stéréotypes étaient à l'œuvre dans l'esprit des recruteurs lorsqu'ils procédaient à un tri de CV.
Et c'est bien présent dans l'esprit du recruteur.
Ces stéréotypes semblent effectivement très, très présents. Ce que nous trouvons, c'est que...
Comment vous l'avez vérifié, justement, à travers un questionnaire, j'imagine, auprès des recruteurs?
Oui. Non, en introduisant des variantes dans les candidatures que j'ai présentées en introduction. Donc, nous sommes partis avec des candidatures de pratiquants. Oui. Mais à côté de ces candidatures de pratiquants, nous avons également introduit des candidatures de personnes qui sont de tradition religieuse, catholique, musulmane ou juive, mais qui affichent leur attachement à la laïcité, toujours via leur implication dans une association de scoutisme. Mais cette fois, c'est pas une association de scoutisme confessionnel, c'est une association de scoutisme laïque, éclaireuse, éclaireur de France, qui est connue pour son attachement à la laïcité. Et ce qu'on trouve, c'est que Mohamed, c'est le seul candidat qui augmente considérablement ses chances lorsqu'il s'affiche comme laïque, plutôt que pratiquant. Ce qui laisse supposer que les recruteurs l'associent également, effectivement par défaut, à l'extrémisme religieux, à un risque de pratiques religieuses transgressives sur le lieu de travail.
Alors, lorsque vous parlez d'une image dégradée de la religion, de l'islam en France, je suis tentée de vous demander, est-ce que c'est pas une méconnaissance, plutôt une ignorance du contenu de cette religion qui est plutôt alimente des peurs, et ces peurs sont alimentées par les acteurs politiques?
Bien sûr, il y a une véritable banalisation de cette islamophobie ambiante et on la trouve y compris dans
des médias. Très haut niveau.
Et y compris dans des médias. Hein. On a recensé dans le cadre de cette étude les couvertures d'hebdomadaires dont les visuels sont très en vue. L'Obs, l'Express, Le Point. Et on a recensé leur traitement des différentes religions.
Ça,
également leur traitement de l'extrême droite.
Hein.
Et on a fait cette enquête sur la période 2013-2015. Hein. 2013 étant le début du testing sur CV.
Qu'est-ce qui ressort, justement?
Et ce qui ressort, en fait, c'est que l'islam est traité de manière plus négative, certes, que le catholicisme et le judaïsme, mais encore de manière plus négative encore que l'extrême droite, que le Front National. Sur 11 couvertures qui ont été dédiées au Front National, on en a une petite moitié qui traite le sujet de manière négative.
Oui. Sur 15 donner un exemple, vous avez cité l'Obs, Le Point.
Alors sur 15 couvertures qui sont dédiées à l'islam, il y en a 10 qui traitent de l'islam radical, donc qui sont par définition négatives, mais sur les 5 autres qui restent, alors même que on ne va pas parler de l'islam extrémiste, on ne parle pas du djihad, on parle de l'islam tel qu'il est pratiqué en France en relative sérénité. Et bien sur ces 5 couvertures, il y en a quand même 3 qui abordent cette religion sous l'angle négatif. Par exemple, une couverture du Point en 2013, viande, la nouvelle guerre de religion, le dossier noir du halal. L'Express en février 2015, laïcité, intégration et éducation, la République face à l'islam, qui laisse supposer à la fois dans le titre et dans le visuel qui était utilisé, une incompatibilité entre les valeurs républicaines et la religion musulmane. Autre exemple, l'Express, toujours en octobre 2013, islam, le danger communautariste, et on avait en visuel 11 poupées qui portent le foulard, qui, on le sait en France, cristallise le rejet de l'islam, qui symbolise du point de vue de la population française à la fois l'extrémisme religieux, parce que sous prétexte que le foulard est quelque chose de visible, il est forcément prosélyte dans l'imaginaire collectif, et c'est également le signe par excellence, le symbole par excellence du point de vue de la population française, de l'oppression de la femme par l'homme.
Voyez-vous, Anne-Marie Valfort, on a envie de vous laisser parler pendant des heures et des heures, parce que ce que vous nous révélez, effectivement, c'est vraiment des informations extrêmement importantes. Et là, du coup, vous pointez du doigt la responsabilité des médias. par rapport justement à cette image dégradée que véhicule l'islam via ses médias, via les déclarations justement des acteurs politiques, pour ne citer que cela, et bien sûr la société ne peut qu'avoir peur et avoir et développer un phénomène de rejet. Jamal Hamli, sur ce que vient de déclarer.
Oui, je pense qu'il y a effectivement une lourde responsabilité des médias. Oui. On parlait tout à l'heure d'ignorance. Il y a l'ignorance, je sais que je ne sais pas. Il y a cette ignorance politiquement entretenu.
Mais il y a plus que ça, il y a une orientation, quoi, quand on voit un peu les conclusions de cette étude.
Avec une dimension politique, j'aimerais qu'on ne l'élude pas. Il y a vraiment une dimension politique extrêmement importante à mettre en évidence. De tout temps, le racisme anti-musulman ou l'islamophobie a été entretenu par des fins politiques. On a l'impression que c'est une constante dans l'histoire de France. Avant-hier avec les croisades, hier avec la colonisation, et aujourd'hui on nous parle des Français musulmans qui représenteraient la cinquième colonne. À un moment donné, nous avons affaire finalement à un maintien volontaire sur le plan politique de certains préjugés pour justifier un certain nombre de discriminations à l'égard non pas de ceux qui veulent rester ou qui prônent le repli sur soi, surtout à l'égard de toutes ces Français qui appartiennent à toutes les minorités visibles, qui sont audacieux et qui veulent au nom de leur citoyenneté ne pas être assignés à résidence et qui veulent jouer le jeu de la République. C'est ces gens-là qui sont punis, c'est pas ceux qui restent dans leur coin, c'est pas celles qui ont une vision finalement de la République qui serait une juxtaposition de communautés. Ils veulent sortir de cela et on les punit. Parce qu'il y a des intérêts économiques et sociaux à préserver. Et ça, on ne le dit pas. Et j'aimerais, véritablement, c'est encore une invitation, pas qu'à l'Institut Montaigne, à tout le monde, de réfléchir sur cette question-là.
Alors, réfléchir sur cette question-là, justement, au CCF, vous avez une plateforme juridique qui est à l'écoute, bien sûr, de tous les citoyens qui s'estiment discriminés ou autres. Alors, Samira Beljati, vous avez certainement reçu des témoignages qui vous ont frappé sur la question de la discrimination à l'embauche. Vous avez des exemples, peut-être, pour illustrer ça concrètement, quand ils viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils vous disent exactement ?
Bien sûr, donc on a des témoignages de personnes qui sont discriminées à l'embauche, qui nous demandent quelle suite apporter, comment ils peuvent réagir. J'ai par exemple le témoignage d'une personne qui nous explique qu'en entretien, alors que son nom de famille est juif, son nom de famille est Lévi, puis il a une petite barbe, on lui demande s'il est musulman, il répond que oui, puisque c'est une personne convertie. Et on lui demande, alors je cite, hein, donc son interlocuteur, il me demande s'il y a moyen que j'enlève ma barbe. Je lui réponds non. Il me dit, je ne peux pas t'employer, j'ai déjà perdu un grand client à cause d'un employé barbu. Je sais que tu es une valeur sûre, on m'a parlé en bien de toi parce que c'est une personne qui a été recommandée. Si tu l'enlèves ta barbe, lundi tu commences.
Donc, il suffit de raser sa barbe pour être recruté.
On a d'autres cas de personnes qui sont convoquées.
Carrément.
Convoqué parce que on a observé que la personne ne serrait pas la main aux femmes, etc. Alors que c'est une personne qui ne serre pas la main du tout, qui dit bonjour, qui ne serre ni à la main aux femmes, ni aux hommes.
C'est aussi une réalité. Il y a des personnes qui ne serrent pas la main aussi. Ça, on peut pas.
Oui, je sais, mais est-ce que cette différence-là doit mener à une inégalité de traitement de personnes ? Voilà, et je voulais juste rebondir sur ce que disait Jamal. Aujourd'hui, il y a une véritable fuite des cerveaux, qu'on se le dise. Oui. Il y a une fuite des cerveaux des enfants d'immigrés qui sont diplômés de grandes écoles et qui vont trouver du travail au Qatar, à Dubaï, au Moyen-Orient.
Non, mais même ici, juste à côté, en Angleterre, ils y vont beaucoup.
Exactement,
ils sont nombreux à aller en Angleterre,
parce que les stéréotypes sont tellement forts que du coup, on impose une sorte de barrière à l'embauche pour toutes les fonctions managériales, etc. C'est décevant quand même de se dire que ces jeunes-là sont reconnus comme français une fois à l'extérieur et pas dans leur propre pays.
Voilà, plus que décevant, bien sûr, le recruteur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du recruteur ? Est-ce qu'il perçoit, si vous voulez, ce candidat comme un candidat vraiment à très haut risque ? Et pourquoi ce risque-là, justement ? Est-ce que on n'est pas dans le préjugé, encore une fois ? Réponse avec Marie-Anne Valfort, tout de suite, après cette courte pause publicitaire. À tout de suite. Pourquoi donc Mohamed a 4 fois moins de chances d'être recruté que Michel ou François? La réponse avec notre chercheuse, parce qu'elle a eu le mérite de faire une étude assez intéressante sur les discriminations à l'embauche liées à la religion. Marie-Anne Valfort de l'Institut Montaigne. Justement, c'est la question qu'on vous avait posée, justement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du recruteur? Alors lui, il est tenu de faire un bon casting. Si jamais il se trompe, bon ben voilà, c'est aussi son poste qui est en jeu. Donc, mais lui, il fonctionne visiblement avec ses stéréotypes. Il tombe dans les amalgames. C'est ce qui se passe en fait dans la tête du recruteur.
Il tombe dans les amalgames, il associe l'homme musulman, en tout cas c'est ce que les résultats de notre testing révèlent, il associe l'homme musulman à un extrémiste religieux en puissance. Il est dans ces amalgames parce que on sait bien que le terrorisme islamique, ça concerne une infime minorité radicalisée de la population musulmane à la fois en France et à l'étranger, mais c'est vrai que c'est un terrorisme qui est extrêmement visible, extrêmement violent, et il pousse la population française à l'erreur, à l'amalgame, avec des conséquences extrêmement négatif pour toute personne perçue comme musulmane sur le marché du travail.
Mais vous entendez, bien sûr, vous êtes chercheuse, mais en même temps, je pense qu'il y a une sensibilité. On ne fait pas cette étude tout à fait par hasard. J'imagine qu'elle a été motivée aussi par des convictions personnelles. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous, Marie-Anne Valfort. Permettez-moi de vous poser cette question.
Écoutez, un souci de préserver la cohésion sociale de mon pays, tout simplement, parce que les conséquences de cette discrimination, les conséquences sociétales sont extrêmement préoccupantes, potentiellement catastrophiques. Ces discriminations, ce sont des injustices qui sont imposées à nos concitoyens musulmans, et ça génère un cercle vicieux dont, avec mes co-auteurs américains, nous avons trouvé des traces. Nous générons, via ces pratiques discriminatoires, du ressentiment, ouais, de la part de toute une communauté, un repli communautaire également. Nous montrons que l'attachement aux valeurs françaises, l'attachement au pays d'accueil diminue d'une génération d'immigrés à l'autre. Sans doute du fait de ce cercle vicieux dans lequel nous sommes prisonniers de par ces comportements discriminatoires qui sont imposés au quotidien aux personnes, aux ressortissants d'une certaine communauté en France.
Alors justement, est-ce qu'il y a des remontées? Vous avez eu des retours par rapport à cette étude? Bon, c'est une étude de scientifique, en fait, indépendante. C'est pas une demande d'un gouvernement. Mais est-ce que vous avez eu des retours? J'aimerais savoir si, justement, les politiques ont pris conscience, justement, de ce danger. Et aujourd'hui, il y a une étude sur laquelle ils peuvent s'appuyer. On a entendu pendant justement cette crise des réfugiés, des élus, un maire pour l'UMP, déclarer qu'il fallait que la France choisisse des réfugiés plutôt chrétiens que musulmans. Justement, lorsqu'on entend ça de la bouche d'élus de la République, il y a de quoi, il y a de quoi s'inquiéter. Justement, est-ce que ces études ont un impact, j'ai envie de dire, sur le discours politique? C'est ça qui est important.
En tout cas, je peux vous garantir que ma seule motivation à mener ce type d'études, hein, c'est justement d'essayer de faire bouger les lignes et d'essayer de mobiliser sur les politiques à mettre en œuvre pour enfin combattre ces discriminations dont on a l'intuition depuis de nombreuses années, mais les chiffrer, comprendre leur ressort, sortir du déni, enfin, et prendre à bras le corps la mesure du problème. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu déçue par le traitement médiatique, hein, dans le sens où les médias s'arrêtent beaucoup au constat, à l'ampleur de la discrimination que subit Mohamed, mais rien n'émerge en termes de réflexion de fond sur les politiques à mener pour enfin faire bouger les lignes, mettre un terme à ces pratiques discriminatoires.
Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Bon, c'est que quand même la discrimination est sanctionnée.
Oui, mais
l'arsenal juridique existe dans ce pays.
Mais il existe.
Mais il est transgressé.
Il existe depuis déjà de nombreuses années, mais agiter la menace juridique, ça n'a que très peu de sens parce que cette menace n'est pas crédible. Prouver une discrimination à l'embauche, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc il faut d'autres approches. La menace juridique ne peut pas être la seule réponse, car elle est inefficace.
Mais elle est inefficace, mais vous avez dit quelque chose de très juste, Marie-Anne Valfort, à savoir qu'il faut avoir la preuve. Vous savez, il y a un défenseur, le défenseur des droits, qui, effectivement, est à l'écoute de tous les citoyens et citoyennes, mais, effectivement, il faut souvent, les candidats se plaignent, mais ils n'ont pas la preuve matérielle de la discrimination. Et donc, du coup, la plupart sont dissuadés et,
absolument.
Et ne saisissent pas justement le défenseur des droits qui effectivement peut faire bouger les lignes, comme vous le dites. Alors quand on a de grands procès de cette nature, on peut effectivement faire bouger les lignes et mettre fin justement à ce discours, parce qu'on a banalisé, on a libéré la parole raciste aujourd'hui en France. Jamal El-Hamri,
pour aller en complément de ce qui a déjà été dit, je pense qu'il y a également une volonté politique qui fait défaut. Aujourd'hui, ces discriminations, on en est arrivé, alors qu'on a, si vous voulez, dans la sphère politique, à gauche comme à droite, on n'a pas de parti politique qui a repris finalement au bout de 2 semaines, c'est ça ?
Oui.
Qui reprend finalement cette étude et qui essaye d'en faire des propositions pour, par exemple, pour les régionales. On n'entend pas forcément de gens de prise de position extrêmement forte en disant oui, maintenant on a la preuve que ça existe. Voilà, maintenant on va essayer de mettre en place un espace de réflexion, une commission pour essayer de voir quelle solution on pourrait apporter. Donc la volonté politique aujourd'hui fait extrêmement défaut. Et pire, toutes celles et ceux qui, à droite comme à gauche, qui sont des élus français et de confession musulmane, n'osent même pas reprendre. Et ça, c'est quelque chose de grave encore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même les concernés, parce que ça ne touche, là on a parlé du monde de l'entreprise,
oui.
Mais ça touche les universités,
aussi.
Ça touche les associations, ça touche toutes les sphères.
Oui.
Et on a même les personnes qui sont concernées n'osent même pas, alors que ce plafond de verre, on l'analyse tous, n'osent même pas reprendre cette étude et en disant, bah voilà, maintenant nous avons un instrument pour essayer de le défendre politiquement.
Alors, je vous le disais justement à l'instant, on parlait de la responsabilité des médias, mais aussi de la responsabilité des acteurs politique. Exemple, on avait donné l'exemple de ce maire qui avait dit effectivement il vaut mieux choisir un réfugié chrétien plutôt que musulman. Rappelez-vous Marine Le Pen quand elle avait comparé effectivement les prières de rue à l'occupation nazie. Alors aujourd'hui Marine Le Pen est donc jugée en correctionnel à Lyon, au tribunal de Lyon, pour ses propos tenus il y a 5 ans. C'est une provocation verbale qui lui vaut la première convocation à la barre. Justement, et nous avons au bout du fil Abdallah Zekri, qui est donc à Lyon. Abdallah Zekri, vous êtes à Lyon, vous suivez de très près bien sûr ce procès, le procès de Marine Le Pen, parce que l'observatoire que vous présidez, l'observatoire de lutte contre l'islamophobie, a porté plainte contre Marine Le Pen, et visiblement à son arrivée au tribunal de Lyon, elle a lancé tout sourire à la foule de journalistes, « Je n'ai commis aucune infraction ». Alors, quels sont les détails que vous avez et où on en est avec le procès ? Abdallah Zekri, vous êtes avec nous ?
Ah non, je vous entends mal. Hein.
Alors, nous, on vous reçoit bien.
Je ne vous entends pas. Là.
Ah. On va voir avec Raymond Jouan comment on peut arranger ça, je vous disais, justement.
Rien du tout, hein. Ça grésille de partout. Hein.
Alors, Raymond Jouan va essayer de, bien sûr...
Grésille, je vous entends pas.
Vous raccrochez, et puis bon, on va vous rappeler, on va essayer de voir si la ligne est beaucoup plus nette. C'est vrai que techniquement, c'est toujours difficile, on voulait en savoir un peu plus, on est en direct, mais en plus... La transition est toute faite et c'est lié avec notre sujet aujourd'hui. Quand vous voyez des acteurs politiques, des leaders de grandes formations politiques tenir des propos pareils, et ben il ne faut pas s'étonner justement des amalgames qui peuvent effectivement être répercutés au niveau du recruteur ou monsieur ou madame tout le monde.
Mais
Samira Benjalti.
Exactement, puisque comparer les prières de rue à l'occupation, qu'est-ce que ça veut dire en définitive ? Ça veut dire que ces musulmans qui prient ne sont pas français, puisque l'occupation, ce ne sont pas des Français qui ont occupé la France, ce sont des Allemands, disons-le. Et c'est très, 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 très grave. Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Jamel plus tôt en disant que les personnes concernées n'osaient même pas affronter ce problème. Nous, on a un souci au CCIF, c'est que parfois, les personnes n'osent même pas porter plainte. C'est-à-dire que c'est joué d'avance. Elles se disent, mais ça ne sert à rien. Et au-delà de ça, c'est que les personnes concernées, comme vous disiez Jamel, elles ont conscience que c'est discriminant d'être musulman, mais pas seulement musulman, mais aussi musulman pratiquant. Vous avez des personnes qui comptent, elles ont réussi à passer ce qui est déjà magnifique, passer le stade de l'appel pour planifier l'entretien d'embauche, rappellent en disant « oui, mais voilà, j'ai le voile, est-ce que ça pose problème ?» Alors que normalement, ça ne devrait pas poser problème. On est ébahi devant une campagne H&M qui met en scène une femme voilée. alors que ce devrait être la normalité. La différence, encore une fois, elle ne doit pas mener à l'inégalité de traitement d'un être par rapport à un autre.
Alors, le mot est lâché, normalité, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans la normalité? On est bien loin de tout ça, Jamal Al-Hamri.
Peut-être une note culturelle. Je pense qu'il y a un très bon film qui résume un petit peu toutes ces difficultés que l'on a, et puis même toutes les difficultés sur le plan identitaire. C'est le film de Kad Merad, l'Italien. Où finalement, durant tout le film, il cache finalement qu'il est d'origine algérienne, qu'il est français d'origine algérienne, qu'il est de confession musulmane, et il se cache dans son bureau pour essayer de faire sa prière. Il rentre également dans la salle dans les toilettes, et il essaye de faire ses ablutions, ceci, cela. Et on voit toutes les difficultés durant tout le film, et c'est très éloquent.
On invite tous nos auditeurs à aller le voir. Alors, on rattrape Abdallah Zekri, le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie. Abdallah Zekri, on vous reçoit bien là tout de suite.
Oui, ça va, je vous entends.
Alors, Marine Le Pen a dit justement à son arrivée au tribunal, donc aux journalistes, je n'ai commis aucune infraction. Qu'en est-il justement de ce procès?
Oui, mais elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut raconter ce qu'elle veut. Bon, elle est venue effectivement au tribunal. Au départ, ça a été quand même un petit peu assez tendu, dans la mesure où son avocat a demandé l'irrecevabilité des parties naturellement civiles, et il parlait de prescription. Finalement, après discussion, son avocat, discussion des avocats de la partie civile, le tribunal se retirait pour naturellement essayer de prendre une décision. La décision a été donc nette et claire que le procès aura bel et bien lieu, dans la mesure où son avocat quand même a oublié de mentionner que l'Assemblée européenne a levé l'immunité parlementaire, et ça a été transmis à la chancellerie. La chancellerie l'a transmis au parquet de Lyon le mois d'avril 2014. Donc on était dans les temps et dans les normes pour que ce procès ait lieu. Donc le procès a bel et bien eu lieu. Madame Le Pen est venue entourée naturellement de toute sa cour, souriante, etc. Elle a pris la parole, mais elle a été quand même à un moment donné déstabilisée parce qu'elle persiste, elle signe.
Par quoi elle a été déstabilisée, Abdallah Zekri?
Elle a été déstabilisée par des questions qui ont été posées parce qu'elle ne retrouvait plus ses mots. Bon, naturellement, elle persiste et elle signe. Et elle dit que de toute façon, ça ne concernait pas les musulmans par rapport à ce problème d'occupation. C'était donc un débat interne entre elle et Godnich pour la présidence du Front National, et elle répondait à des questions de Godnich. On a très bien compris qu'elle a voulu montrer aux militants du Front National de Lyon qui étaient venus voter qu'elle aussi, elle peut être dure, et c'est pour ça qu'elle a...
Alors, on a perdu Abdallah Zekri. Alors, restez avec nous, justement, par rapport aux déclarations faites par Marine Le Pen. Il ne faut pas oublier qu'elle est avocate. Marine Le Pen dit que, justement, qu'elle n'a pas commis d'infraction. Je la cite, je suis dans mon droit, en tant que responsable politique, d'évoquer un sujet fondamental et d'ajouter les prières de rue. C'est une manière d'occuper un territoire pour y imposer une loi religieuse. Elle le dit, là, clairement.
Bien sûr, elle a dit, elle a redit, et c'est pour ça que lorsque le président tribunal m'a donné la parole, j'ai bien précisé à Mme Le Pen, qui parlait de propos d'une certaine banalité, pour lui dire que ce sont ses propos qui sont graves, et que si Mme Le Pen aujourd'hui s'exprime librement au nom naturellement d'une France complexée, s'il n'y avait pas les musulmans, un simple indigène de la République qui sont venus se faire crever la paillasse ici en France en 39-45, je crois qu'actuellement vous ne pouvez pas parler, Madame Le Pen. Ce qui est naturellement ce qui nous a frustrés, ce qu'elle a fait sans speech, sans discours, et elle a quitté la salle sous prétexte qu'elle avait un rendez-vous important à Paris. Or que nous, on aurait aimé qu'elle reste pour écouter tout ce qu'on lui reproche. Bon, donc c'est clair, on a fait ressortir personnellement, en tant que président d'observatoire, que s'il y a actuellement une situation dramatique ici en France dans le cadre de l'islamophobie, parce qu'elle dit que l'islamophobie n'existe pas, que nous sommes des gauchistes, que nous obéissons au pouvoir, je suis désolé, dans sa région Rhône-Alpes, là, actuellement, pendant les 9 premiers mois de l'année 2015, nous sommes à 32 actes anti-musulmans, contre à peine 14 pour toute l'année 2014.
Alors restez avec nous, Abdallah Zekri, il y a des réactions ici sur le plateau, avec notre chercheuse Anne-Marie Valfort, qui a réalisé une très belle étude, d'ailleurs on vous invite à la lire, discrimination religieuse liée bien sûr à l'embauche. Elle voudrait réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre, Anne-Marie Valfort.
Oui, les propos de Marine Le Pen sont juste dans la droite ligne du discours d'investiture qu'elle avait prononcé en janvier 2011, lorsqu'elle a été promue à la tête du parti, où elle avait bien signifié que l'islam allait faire partie, allait être l'un des ennemis numéro un du Front National, et où elle avait laissé entendre que la France est menacée d'être un califat, c'est-à-dire un territoire musulman soumis à un pouvoir spirituel et temporel musulman. Et elle sait très bien que électoralement, ce thème-là est porteur, encore une fois, du fait de l'extrémisme religieux que l'on observe à l'étranger avec l'expansion de l'État islamique, etc., qui cristallise la peur de nombreux Français.
Et c'est comme ça qu'on peut rafler des voix. Effectivement, on est en plein régional. Abdelaziz Zekri, j'imagine que vous attendez une sanction sévère. Ce serait laquelle, selon vous ?
Ben, écoutez, ce qu'on attend, c'est qu'elle soit condamnée à une prison, même avec sursis, à une amende également. Maintenant, il est vrai que Mme Le Pen, elle parle de prière de rue, mais elle oublie une chose de dire, c'est que depuis 2 ans, il y a beaucoup de mairies qui ont été gagnées par le Front National et qui remettent actuellement en cause les permis de construire qui ont été délivrés par les mairies précédentes. Mmh. Alors, si elle ne veut pas avoir des prières de rue dans les mairies du Front National, qu'elle laisse les personnes construire
des mosquées. Voilà. Alors, restez avec nous 30 secondes, peut-être une question du CCIF représenté par Samira Banjalti.
Oui, bonsoir monsieur Zekri.
Oui, bonsoir Samira.
Ça va, vous allez bien ?
Voilà, ils se connaissent. Voilà, du coup.
Écoutez, je voulais juste vous remercier et mettre à l'honneur le fait que les associations sont vraiment unies autour de cette question, et ça fait plaisir de voir que et le MRAP et le CCIF et l'Observatoire contre l'islamophobie que vous représentez ne laisseront pas passer cette affaire-là, parce qu'aujourd'hui on assiste à une banalisation du discours islamophobe qui est due aussi en partie aux médias, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on voit qu'on essaie de légitimiser la parole du FN, on en a plusieurs exemples, ça participe justement à cette mauvaise image de l'islam, ce dont parlait tout à l'heure Marianne Valfort, et on en arrive à ce que des propos comme ça soient dits en toute impunité. J'espère justement que ça ne sera pas en toute impunité, j'espère vraiment qu'elle sera condamnée.
Voilà, donc condamnée à un an de prison avec sursis, pour vous, c'est symbolique, mais la symbolique est assez forte à vos yeux ?
Ben, si elle est condamnée à un an de prison avec sursis et puis elle est condamnée à une amende, je l'inviterai à prendre un michu avec moi.
Oui, carrément. Voilà.
Avec naturellement une longue baguette.
Très bien. 30 secondes pour conclure, parce qu'il y a la pause publicitaire à Blaise Écrit, une affaire à suivre, bien sûr.
Oui. Voilà. Écoutez, affaire à suivre. Et puis, on est là pour se battre et puis on est là pour ne pas lâcher, et puis on ne peut pas accepter cela. Alors, Marine Le Pen, si nos parents sont morts, Saint-Plain-Jean de la République, et bien, son entourage d'extrême droite, ils étaient pour les nazis. Voilà, donc il faudrait mieux qu'elle ferme sa gueule.
Bien dit.
Bah écoutez, merci. Vous étiez donc en direct depuis Lyon, où se tient effectivement donc le procès de Marine Le Pen au tribunal correctionnel de Lyon. On marque une petite pause et puis retour à notre plateau qui porte, vous le savez, sur la discrimination à l'embauche pour raison de religion. Merci Raymond, on a bien compris qu'il ne restait plus que 4 minutes pour conclure sur un sujet aussi complexe, très très difficile. Effectivement, je voulais juste recueillir un peu vos réactions par rapport à la valeur de la sanction, parce que quand même on est dans un état de droit. Peut-être réaction avec vous, Marie-Anne Valfort d'abord, et puis Jamal Hamli et Samira Banjalti.
La valeur de la sanction au niveau du symbole, elle est importante. Il est important que Marine Le Pen soit sanctionnée pour les propos qu'elle a tenus, mais encore une fois, la sanction, la menace juridique sur le marché du travail, ça ne fonctionne pas. Et moi, dans mon étude, j'essaye d'avancer une proposition qui est peut-être un peu plus ambitieuse que ceux qu'on a testés jusqu'à présent. C'est l'instauration d'une subvention à l'embauche pour les minorités visibles objectivement discriminées de notre pays, à l'instar des subventions à l'embauche qui existent déjà pour corriger des inégalités sociales. Et l'objectif, ce ne serait pas d'octroyer un avantage inconditionnel à une minorité de personnes. Pas du tout. L'objectif, ce serait de rétablir une égalité de traitement ACV équivalent, égalité de traitement qui, à ce jour, est très gravement bafouée.
Donc, une subvention pour toutes les entreprises, une façon de les encourager à recruter des Français qui sont effectivement d'obédience religieuse musulmane, c'est bien ça. Voilà, voilà, une bonne idée à retenir. Jamal Hamli,
moi, je crois que voilà, sur la sanction, je pense qu'elle est, elle est symbolique, mais la symbolique aujourd'hui est extrêmement importante. Il faut savoir que les, durant ces 15 dernières années, l'islamophobie a grandi à coups d'affaires. On se souvient des 15 dernières années, il y a eu des affaires juridiques. Là aujourd'hui, si on veut lutter contre l'islamophobie, il faut des affaires. Et je pense que c'est symbolique. Ensuite, j'aimerais saluer également la maturité des associations. Elles sont capables de se réunir, et il faut également que ça crée de la prudence dans la parole publique.
Voilà, parole publique, bien sûr, prudence. Samira Benjelti, 30 secondes.
Alors, juste pour dire que il faut vraiment qu'il y ait une sanction, parce que s'il n'y a pas de sanction aujourd'hui, quel message on va envoyer aux Français, mais surtout aux Français de confession musulmane? Voilà.
Ça veut dire concrètement que s'il y a sanction, il y a de fortes chances que ces amalgames cessent d'exister. 30 secondes pour conclure avec vous, Marie-Anne Valfort, que Mohamed pourra avoir plus de chances. Ou une chance, pas plus, pas moins, une chance d'être recruté.
Oui, je pense qu'il faut une vraie volonté politique dans tous les cas derrière l'ensemble de ces initiatives. De nombreuses pistes de solutions existent. Il faut vraiment qu'il y ait un courage politique pour se lancer dans de l'expérimentation en partenariat avec la communauté scientifique pour déterminer enfin quel type de politique permet de combattre efficacement contre les discriminations.
Nous ne sommes qu'au
début de la réflexion sur ce sujet, et il faut se lancer à corps perdu dans ce débat.
C'est dire qu'il y a encore d'autres études. On est appelé à vous réinviter dans cette édition.
Si les entreprises m'ouvrent leurs portes pour tester les pistes de solutions susceptibles de fonctionner, si le gouvernement fait confiance à la communauté de chercheurs pour l'aider à déterminer ce qui fonctionne.
Ça s'entend dans vos propos, Marie-Anne Valfort.
C'est un outil pour 2017.
C'est un outil.
C'est un outil pour 2017. Et voilà. il faut s'en servir.
Oui, j'espère. Je voulais juste terminer avec le témoignage de Waiba, une majeure de promo d'une école de com qui a prononcé un merveilleux discours lors de sa cérémonie de diplôme que vous pouvez retrouver sur Internet, qui relate un entretien qu'elle a eu avec un DRH chez Publicis et qui lui dit « Mais madame, avec votre voile, vous n'y arriverez jamais. Un transgenre a beaucoup plus de chances que vous de réussir. » Voilà où on en est aujourd'hui, et il faut que ça change. Et effectivement, j'espère que cette étude, Marianne, servira pour 2017.
Et nous, de notre côté, on sera ravis de recevoir cette Waiba, justement, qui a visiblement créé sa propre entreprise. Merci d'être venu dans nos studios pour nous éclairer sur les discriminations religieuses. Et merci à vous, amis auditeurs, de rester fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain dans Voix de Femmes.